29 janvier. La vacuité créatrice. Ne pouvez-vous écouter tout simplement, comme la terre s'ouvre à la graine, et voir si l'esprit est capable d'être libre, vide? Il ne peut être vide que s'il comprend l'ensemble de ses projections, de ses activités, et s'il les observe non pas de temps en temps, mais jour après jour, seconde après seconde. Alors, vous aurez la réponse. Alors, vous verrez que le changement vient sans qu'on le sollicite, que l'état de vacuité créatrice ne se cultive pas. Il est là. Il survient sans qu'on l'y invite, dans le secret et le mystère, et ce n'est que dans cet état que deviennent possibles le renouveau, la nouveauté, la révolution. Janvier. La connaissance de soi. La pensée juste va de pair avec la connaissance de soi. Sans elle, votre pensée n'a aucune base. Sans elle, ce que vous pensez n'est pas vrai. Vous et le monde n'êtes pas deux entités séparées, avec des problèmes distincts. Vos problèmes et ceux du monde ne font qu'un. Vous pouvez être le produit de certaines tendances, de certaines influences liées au milieu. Vous n'êtes cependant pas fondamentalement différents les uns des autres. Sur le plan intérieur, nous avons quantité de ressemblances. Nous sommes tous mus par l'avidité, la malveillance, la peur, l'ambition, et ainsi de suite. Nos croyances, nos espoirs, nos aspirations ont une base commune. Nous ne faisons qu'un. Nous ne formons qu'une seule et même humanité, en dépit des frontières artificielles de l'économie, de la politique et des préjugés qui nous divisent. Si vous tuez quelqu'un, c'est vous-même que vous détruisez. Vous êtes le centre de ce tout, et si vous ne vous comprenez pas vous-même, vous ne pouvez comprendre la réalité. Nous avons de cette unité une connaissance intellectuelle, mais nous gardons nos connaissances et nos sentiments dans des compartiments étanches. Et voilà pourquoi nous ne faisons jamais l'expérience réelle de cette extraordinaire unité du genre humain. Janvier. Toute relation est un miroir. La connaissance de soi ne dépend pas d'une quelconque formule. Peut-être cherchez-vous à vous connaître grâce à l'aide d'un psychologue ou d'un psychanalyste. Mais cela n'a rien à voir avec la connaissance de soi. Celle-ci survient lorsque nous prenons conscience de nous-mêmes dans la relation, révélatrice de ce que nous sommes, seconde après seconde. Toute relation est un miroir dans lequel nous nous voyons tels que nous sommes vraiment. Or, nous sommes pour la plupart incapables de nous regarder en face tels que la relation nous révèle, parce que nous nous mettons immédiatement à condamner ou à justifier ce que nous constatons. Nous jugeons, nous évaluons, nous comparons, nous nions ou nous admettons, mais jamais nous n'observons vraiment ce qui est. Apparemment, ce qu'il y a de plus difficile pour la plupart des gens. Et pourtant, c'est par là, et par là seulement, que passe le commencement de la connaissance de soi. Si l'on peut se voir tel qu'on est dans le miroir que nous tend toute relation, et qui nous renvoie une image fidèle, si l'on peut simplement plonger dans ce miroir un regard totalement attentif, et voir réellement ce qui est, en être conscient, mais sans condamnation, jugement ni évaluation, en agissant comme lorsqu'on est animé par un intérêt passionné, alors on s'apercevra que l'esprit est capable de se libérer de tout conditionnement. Ce n'est qu'alors qu'il est libre de découvrir ce qui est au-delà du champ de la pensée. En définitive, l'esprit, si érudit ou mesquin qu'il soit, est limité, conditionné, tant au niveau conscient qu'inconscient. Et toute extension de ce conditionnement reste toujours à l'intérieur des limites du champ de la pensée. La liberté, c'est donc tout autre chose. Premier février. Le devenir, c'est le conflit. La vie telle que nous la connaissons, notre vie quotidienne, est un processus de devenir. Je suis pauvre et mon but est de devenir riche. Je suis laid et je veux être beau. Ainsi, ma vie est un processus de devenir. La volonté d'être est la volonté de devenir, à des niveaux différents de la conscience, en des états différents, où se retrouve le défi, la réaction, l'acte de nommer et d'enregistrer. Et ce devenir est un effort. Ce devenir est douleur. C'est une lutte constante. Je suis ceci et je veux devenir cela. Deux février. Tout devenir est désintégration. L'esprit a une idée, peut-être agréable, et il veut ressembler à cette idée qui est une projection de votre désir. Vous êtes ceci, que vous n'aimez pas, et vous voulez devenir cela, qui vous plaît. L'idéal est une projection du moi. Le contraire est une extension de ce qui est. En fait, loin d'être le contraire, c'est, avec quelques modifications peut-être, le prolongement de ce qui est. La projection est voulue par le moi, et le conflit est l'effort pour atteindre cette projection. Vous vous efforcez de devenir quelque chose, or ce quelque chose fait partie de vous-même. L'idéal est votre propre projection. Voyez à quel point l'esprit se joue des tours. Vous courez après des mots, après vos propres projections, après votre ombre. Vous êtes violent, vous vous évertuez à la non-violence, l'idéal. Mais cet idéal est une projection de ce qui est, simplement sous un autre nom. Lorsque vous avez conscience de cette supercherie, de cette farce mensongère que vous vous jouez à vous-même, alors le faux est perçu comme tel. L'effort pour atteindre une illusion est le facteur désintégrateur. Tout conflit, tout devenir est désintégration. Lorsqu'il y a conscience de ce tour que l'esprit s'est joué à lui-même, alors il ne reste que ce qui est. Lorsque l'esprit est dépouillé de tout devenir, de tout idéal, de toute comparaison, de toute condamnation. Lorsque l'esprit est dépouillé de tout devenir, de tout idéal, de toute comparaison, de toute condamnation. Lorsque s'effondre tout l'édifice de l'esprit, ce qui est a été l'objet d'une transformation totale. Tant que l'on donne des noms à ce qui est, il y a relation entre l'esprit et ce qui est. Mais lorsque ce processus de dénomination qui est la mémoire, la structure même de l'esprit, n'est pas, alors ce qui est n'est pas. Ce n'est que dans cette transformation qu'il y a intégration. 3 février. Un esprit fruste peut-il devenir sensible? Soyez attentif à la question, au sens caché derrière les mots. Un esprit fruste peut-il devenir sensible? Si je dis que mon esprit est grossier et que j'essaye de devenir sensible, l'effort même de devenir sensible est de la grossièreté. Je vous en prie, voyez bien cela, et que, loin de vous intriguer, cela retienne votre attention. Alors que si je reconnais ma grossièreté d'esprit sans vouloir changer, sans essayer de devenir sensible, si je commence à comprendre ce qu'est la grossièreté, à en observer les manifestations dans ma vie quotidienne, ma gloutonnerie à table, ma rudesse envers les autres, mon orgueil, mon arrogance, la brutalité de mes attitudes et de mes pensées, alors cette observation même transforme ce qui est. De même, si je suis stupide et que je décrète que je dois devenir intelligent, mes efforts en ce sens ne sont qu'un degré de plus dans la stupidité. Car l'essentiel, c'est de comprendre la stupidité. J'aurai beau m'évertuer à l'intelligence, ma stupidité demeurera. Je peux éventuellement acquérir un vernis superficiel de connaissances, faire des citations, réciter des textes de grands écrivains, mais fondamentalement, je serai toujours aussi stupide. Alors que si je constate et si je comprends la stupidité telle qu'elle s'exprime dans ma vie quotidienne, mon comportement à l'égard de mon serviteur, mon attitude envers mon voisin, envers le pauvre, le riche, envers l'employé de bureau, alors cette conscience même provoque la débâcle de la stupidité. Février. L'importance grandissante de l'ego. Les structures hiérarchiques offrent à l'ego une excellente occasion de se développer. Vous pouvez appeler la fraternité de vos vœux, mais comment peut-il y avoir fraternité si vous avez soif de distinction spirituelle? Les titres, les honneurs de ce monde peuvent vous faire sourire de dédain. Mais lorsque vous admettez le maître, le sauveur, le gourou, ne transposez-vous pas dans la sphère spirituelle l'attitude même qui a cours dans le monde? Peut-il exister des divisions ou des degrés de hiérarchie dans le développement spirituel, dans la compréhension de la vérité, dans la réalisation de Dieu? L'amour n'admet aucune division. Ou bien vous aimez, ou bien vous n'aimez pas. Mais ne déguisez pas l'absence d'amour en un processus interminable dont l'aboutissement est l'amour. Lorsque vous savez que vous n'aimez pas, lorsque vous êtes conscient lucidement et sans choix de ce fait, alors il y a une possibilité de transformation. Mais cultiver assidûment cette distinction entre le maître et l'élève, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas atteint le but, entre le sauveur et le pécheur, c'est nier l'amour. L'exploiteur, qui est à son tour exploité, trouve dans ces ténèbres et dans cette illusion un champ d'action privilégié. La séparation entre Dieu ou la réalité et vous-même vient de vous, de l'esprit qui se raccroche au connu, aux certitudes, à la sécurité. Cette séparation est un abîme infranchissable qu'aucun rituel, aucune discipline, aucun sacrifice ne peut vous permettre de franchir. Il n'y a pas de maître, de sauveur, de gourou qui puisse vous conduire au réel ou faire disparaître cette séparation. La division n'est pas entre le réel et vous-même, elle est en vous-même. Ce qui importe, c'est de comprendre le conflit sans cesse grandissant du désir. Et cette compréhension ne vient que par la connaissance de soi et une conscience de tous les instants des mouvements du moi.